France Culture.
Les midis de culture. Marie Laborie.
Dans son nouveau livre, elle se glisse dans la peau d'un chat nommé Chemoul. Chemoul nous raconte sa vie par le menu, manger, se faire caresser, surtout dormir. C'est drôle et stimulant, la poétesse Nathalie Quintane sera mon invitée à partir de 13h. Mais d'abord, et comme chaque jour, on commence avec notre plateau de critiques. Aujourd'hui, deux amoureux de Paris, deux figures du XXe siècle, deux amis des artistes. Aujourd'hui, on parle des expos Robert Doisneau, Instant Donné, au musée Mayol, et le Paris d'Agnès Varda, de ci, de là, au musée Carnaval. Allez, tout ça, c'est à Paris. Vous écoutez les Midis de Culture et ça ne m'étonne pas de vous. Et pour débattre autour de la table aujourd'hui, Philippe Azoury, journaliste, critique et auteur. Bonjour.
Bonjour Marie.
Joseph Gosne, directeur adjoint de la rédaction de Madame Figaro. Bonjour.
Bonjour Marie.
Et bienvenue à tous les deux.
Ce qui me plaît beaucoup, c'est de montrer le merveilleux dans la vie quotidienne, si vous voulez, de façon à ce que l'homme pressé qui passe dans la rue avec des œillères se disent, je suis passé là, je n'ai rien vu, il y a un type qui l'a vu pour moi, la prochaine fois, peut-être que moi aussi je serai éveillé, je verrai. C'est ça vraiment que je... Enfin, je crois que il faudrait que, avant tout, on sente la présence d'un homme derrière l'appareil, et surtout de l'amour de cet homme.
Robert Doisneau, en 1964, sur le RTF, on a un peu l'impression que le moule dans lequel avait été fait cet homme est cassé. Tout l'amour dont il parlait ici saute aux yeux dans ses photos de gamins de Paris et de ses faubourgs, des photos évidemment mondialement connues, en vente un peu partout, à l'image du baiser de l'hôtel de ville, des photos qu'on voit aujourd'hui sans vraiment les regarder. Mais l'exposition du musée Mayol donne à voir quelques 400 clichés de Doisneau et on prend conscience au fur et à mesure de son œil attentif au monde du travail, à la solitude, aux misères de la banlieue. Puis on découvre aussi l'ami des peintres, Trio, Braque, Picasso, ont posé devant son objectif. On voit enfin, surpris, ses photos en couleur. On commence avec un avis rapide, Philippe Azoury.
Oui Marie, vous disiez, le moule est cassé. C'est un des grands plaisirs de cette exposition, qui continue de m'habiter deux jours après l'avoir visitée. C'est que sur ces 400-450 images qu'on voit, il y a un retour possible à Doisneau, là où ça semblait plus du tout réalisable. Les photos de Doisneau, elles finissaient sur la porte des frigos, c'est-à-dire ce qu'on ouvre pour aller bouffer un truc derrière, on les regarde pas, ou alors sur des cartes postales ou des affiches dans le métro, éventuellement, pour le mieux, en couverture de certains très très bons livres, mais comme photographie, on les avait évitées, et si je peux vous dire, dire la vérité pour une fois, j'ai honte de moi, parce que j'ai honte d'avoir délaissé Doisneau en tant que amoureux de la photo, pas tant que journaliste, on se trompe tout le temps, mais en tant qu'amoureux de la photographie, j'ai honte de moi d'avoir délaissé Doisneau, qui était mon premier amour de photographie, tant d'années, et je suis très troublé de l'avoir à ce point physiquement retrouvé il y a deux jours.
Joseph Gosne.
Oui, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Philippe. Je dirais, pour reprendre un peu une expression qu'on a entendue dans la bouche de Doisneau, cette exposition, elle permet de retrouver le merveilleux dans Doisneau. C'est-à-dire que, au-delà de ces photographies que l'on connaît et que l'on ne regarde même plus, dont on ne sait même plus finalement l'histoire réelle, les coulisses, on découvre des choses, on découvre un travail, un regard, et on le découvre en étant, dès le départ, un peu décontenancé, parce que l'exposition, elle est organisée par grands thèmes. Elle n'est pas chronologique, ce qui aurait été une forme de facilité peut-être. Mmh. Et c'est à chacun de refaire sa chronologie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à apercevoir dans l'exposition, dès le départ, en étant justement un peu décontenancé, que le regard reste toujours très 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 vif, très très fort, et que l'esthétique qu'il porte dès le début, dès ses premières années, elle se poursuit et elle s'affine. Et ensuite, elle se déplace vers d'autres sujets qui, au départ, on voit des gamins, etc. Ensuite, ça se déplace vers des artistes et vers d'autres choses. Mais c'est une vraie découverte, j'ai envie de dire, même plus qu'une redécouverte.
Mmh. Alors, Philippe Azoury, c'est beau ce que vous avez dit, mais c'est la redécouverte d'un premier amour.
Oui, je fais partie, je pense, on n'en a pas parlé avant, parce qu'on s'est tenu, on a bu un café, mais sans parler des deux expos. Mais je suis né dans une époque où il n'y avait pas encore Internet, et je fais partie de cette génération, j'avais 13-14 ans, où le photopoche Doisneau, qui a dû sortir au mi-temps des années 80, entre 85 et 89, et a été vraiment le premier accès à la photographie. Et il y avait un endroit comme ça où ça me semblait être vraiment toute la photo, c'était Doisneau. Et puis après, effectivement, de Doisneau, on passe à Brassailles, qui est toujours quelque chose un peu comme ça, plus grand, dandy, voilà. étrange, à quartier Bresson, qui a quelque chose d'un peu plus, presque d'un boxeur, d'un catcheur, quelque chose de plus proche de Depardon, disons, aujourd'hui. Mmh. On passe effectivement par Depardon, puis on arrive aux Américains, mmh. Joseph connaît ça par cœur, que ce soit Robert Frank ou William Eggleston, puis on arrive à Dagata, aux Japonais, tels que Araki ou Daido Moriyama, et on oublie Douaneau. On oublie Douaneau, et puis on le résume à ce qu'on croit pouvoir être capable de le résumer, c'est-à-dire humanisme, l'instant prégnant, comme ça, tel quel, les enfants en culottes courtes, un peu, comme ça, la guerre des boutons, exactement ce que raconte la fiche de l'expo. C'est pour ça que moi, je traînais un peu les pieds. Et puis, on voit autre chose. Il se trouve que mes notes étaient dans mon téléphone qui m'a lâché hier après-midi, le salaud. Donc, mais quand même, j'étais tellement impliqué par cette truc de Douaneau que j'avais souvenir d'une très très belle interview dans les Un Rock à la fin des années 80, en 89. Je l'ai retrouvé là, dans mon bazar chez moi tout à l'heure. J'ai cherché plein de trucs, j'ai soulevé. Ce numéro 18, c'est quand même une jeune revue, ça me fait. Et j'aimerais juste vous livrer comme ça un mot, et ça dit assez bien. C'était 89, Éric Mullet, des photographes aux Inrocks, qui était allé l'interviewer, lui dit: on a beaucoup parlé de vous ces derniers temps. C'était le moment de l'âge d'or de Douaneau, le renouveau de Douaneau. C'est-à-dire, d'un coup, les années 80 étaient redécouvrés Douaneau pour la première fois. Il y avait eu une traversée du désert dans les années 70, on trouvait ça génial. Et Douaneau, qui est très vieux, dit: est-ce qu'on parle de moi parce que je deviens pittoresque, une espèce de personnage âgé, enfin vieux. Ça, c'est extraordinaire, on y reviendra, parce qu'il a jamais, en fait, on dirait qu'il a jamais été vieux, il n'a jamais vieilli, c'est un éternel enfant. Enfin vieux, qui continue à faire un métier un peu primesautier. Je me prends pas du tout au sérieux, je continue à peu près à faire les mêmes photos depuis toujours, et là, on vient me voir parce que je suis le plus vieux. Mais ça me déplaît pas, je trouve cet échange rigolo, je suis un peu la caisse à jouer des enfants, mais le pire, je pense, c'est l'indifférence quand on n'intéresse plus personne. C'est comme si les gens étaient déjà dans un autre monde. On les condamne au silence, ils n'intéressent plus, c'est le vieux à la fin du repas qui veut raconter des anecdotes, tout le monde s'en fout, on dessert la table, il reste là, tripoter les miettes du pain, il parle tout seul. Il y a bien un cousin de Provence qui est là, un peu rond, un peu bourré, qui continue à l'écouter parce qu'il ne peut plus se lever. Et le vieux raconte, mais il n'a plus d'auditoire. En fait, je crois qu'on sort des années après le tsunami Douaneau jusqu'à sa mort en 94, d'une longue période d'oubli, où effectivement, non pas qu'on rejetait la photo de Douaneau, c'est que le monde qu'il avait photographié s'est détaché de nous totalement. Il n'y avait plus du tout de raccord. Et il faut, ce qui est aujourd'hui, enfin, admirable, vraiment, c'est que, je suis le premier à en être surpris, c'est qu'en fait, un raccord est de nouveau possible. Et ce raccord, il avait été possible dans les années 80. C'est assez intéressant que, par exemple, là, c'était une interview de Zin Rock, mais Bizot l'avait fait, commandé à Douaneau, pour Actuel, énormément de photos de tout ce qui était la scène un peu punk à l'époque. Il y a des photos incroyables d'Erita Mitsuko, des négresses vertes. Et on voyait bien, en tout cas, le pont à partir du côté un peu zazou des années 30 de Douaneau, et ce qu'il pouvait faire avec un certain rock qui avait cette mythologie, effectivement, post-Belle Équipe, la Belle Équipe de Duvivier, mais réactivée avec le punk dans les années 80. Je me suis demandé aujourd'hui si, par exemple, toute une jeunesse qui vit vraiment dans la banlieue, qui est en train d'occuper des ateliers d'artistes de la banlieue parisienne, mais qui cherche effectivement une mythologie, si elle peut se retrouver dans Douaneau. Et si cette photo, si cette expo peut être l'occasion de ça. Je ne suis pas certain que l'expo puisse être l'occasion de ça, parce que c'est un endroit que j'aime beaucoup, le musée Mayol, la fondation Dina Verny. C'est un public un peu, qui est un peu vieillissant. Moi, j'y suis allé mardi matin, c'était plein. C'est plein tout le temps, apparemment. Mmh. Mais c'est quand même, enfin voilà, il y a un certain âge. Mais j'aimerais qu'il y ait un pont possible avec une nouvelle génération aujourd'hui.
Alors, Joseph Gosne, vous disiez, l'exposition n'est pas chronologique. Ça commence par les enfants, ça on connaît par cœur. Et puis après, qu'est-ce qu'on voit?
Ce qui est intéressant, c'est que ça commence par les enfants. Et quand j'ai revu ces photos, je me suis dit, tiens, ça me fait penser à Quick et Fluc.
Et c'est exactement ça.
Le jeune Albert
de Charles, qui est une relecture quasiment de Quick et Fluc.
La ministre trouve qu'on n'est pas assez tourné vers les jeunes, ça va pas rajeunir, là, si on parle de Quick et Fluc.
Ça va pas rajeunir, mais en tout cas, c'est une certaine idée de la jeunesse. Oui. Et il arrive à capter ça à toutes les années, quoi. Enfin, dans tout son parcours, il arrive à capter quelque chose qui, finalement, au-delà même de la jeunesse, est quelque chose d'un peu fugace et d'un peu espiègle. Il y a vraiment de l'espièglerie, et ça m'a assez touché. C'est-à-dire, même dans ses portraits de Marcel Duchamp, d'Orson Welles, c'est un portrait d'Orson Welles, hilar. Il y a quelque chose comme ça, d'assez drôle, d'assez espiègle. Il cherche à capter, évidemment, un moment, comme tout photographe, mais il le fait avec toujours cette même idée de la mise en scène, du détail, de quelque chose qui, dans la photo, soulève un peu votre imaginaire. Il y a un peu ça, je trouve. À chaque fois, il y a une sorte de mouvement ou quelque chose qui fait un peu travailler votre, à la fois votre mémoire. Tiens, où est-ce que j'ai déjà vu cette scène-là? Où est-ce que j'ai déjà vu ce personnage? À quoi ça me fait penser? Quelle est cette situation? Il y a aussi les lieux, les artistes dans leurs ateliers. Comment est-ce qu'on voit ça aujourd'hui? Ça suscite beaucoup de choses. Donc évidemment, on passe des enfants aux artistes dans leurs ateliers. On arrive aussi à un moment que je trouve assez, assez intéressant et assez, assez important. Il devient photographe pour Vogue. Et donc, il photographie de la mode. Et ce qui est intéressant, c'est que même dans ses photos de mode, on voit Paris. On voit du décor, on voit du paysage. Et c'est comme s'il incrustait sa ville, c'est-à-dire aussi sa vie, dans ces images-là, qui sont des images censées représenter des vêtements, des mannequins, des silhouettes. Et j'ai l'impression qu'il le fait à chaque fois. Et il le dit, je crois, à un moment, on peut lire ça un peu dans l'exposition, c'est-à-dire que il n'est pas de ce monde-là. Et finalement, il n'est pas forcément de tous les mondes qu'il photographie, mais à chaque fois, il arrive à s'y adapter, à tenter de comprendre, en se mettant un peu, à la fois avec une forme de distance, en cherchant les détails, et avec un regard qui n'est jamais ni dans le jugement, ni dans la critique, je crois, mais qui cherche à capter quelque chose du mouvement. J'étais assez touché par cette espèce de modestie, je trouve, qu'il a, et aussi en parallèle, comme en écho à ça, par le fait qu'en fait il a commencé il a été formé à la gravure, à la lithographie. Et j'ai l'impression, enfin après avoir lu ça au début de l'exposition, je me dis tiens, j'ai l'impression de voir vraiment ça dans ces images, c'est-à-dire que j'ai l'impression de voir le travail d'un lithographe, c'est-à-dire quelqu'un qui va vraiment prendre une image, saisir une image et la travailler son tirage, travailler la façon dont elle va être exposée et montrée. Mais ces images-là, elles sautent très souvent aux yeux. Donc moi, ça m'a vraiment capté. Et notamment ces images de mode, on se rend compte qu'à un moment, il crée son propre langage et que ce langage-là, finalement, il fait aussi écho à d'autres grands photographes qu'on n'identifie plus forcément uniquement à la mode, dont on a parlé récemment, Avedon par exemple, et que d'un coup on comprend qu'il y a une forme d'histoire de la photographie de mode qui commence là, ou qui est en train de se former là avec lui et avec quelques autres.
L'image qu'on a de Doisneau, et ça c'est dû sûrement à cette consommation Doisneau qu'on a eue dans les années 80, c'est quelque chose qui est aussi un peu de l'ordre du cliché dans le regard sur les faubourgs, sur la banlieue, qui est un peu caricatural. Et ça, est-ce que cette exposition permet soit de confirmer, soit d'infirmer?
Bon, on voit ce qui est réel, c'est-à-dire qu'il a arpenté Paris. Et Paris et sa banlieue, enfin le Grand Paris, les 21 arrondissements de Paris, il les a arpentés à sa façon, c'est-à-dire pas forcément avec une commande, même s'il a beaucoup travaillé à la commande parce qu'il fallait vivre, mais avec l'idée d'être surpris par quelque chose. Et c'est vrai que on a l'impression d'un pittoresque. On avait en tête l'idée d'un pittoresque. Il y a des endroits d'exposition. Il y a un endroit vraiment sur la banlieue où on est heurté par la violence. Il y avait une photo que je ne connaissais pas du tout. Je pense l'avoir jamais vue, qui doit dater, donc, comme j'ai perdu mes notes, je pense que ça doit être la fin des années, entre 45 et 52. Et on voit une femme qui c'est même pas dans un bidonville ou la zone, elle vit dans des cartons. Et elle est dressée comme ça, comme quelqu'un qu'on vient de réveiller, que le bruit du déclencheur vient de réveiller, et elle le fixe avec le regard. Il y a dans cette photo-là une violence incroyable. Il y a une photo juste au-dessus, d'ailleurs, c'est vraiment le même pan de mur, un enfant réfugié. C'est le titre de la photo, on croirait que c'est un enfant cul par-dessus tête. Il y a plein de gens d'enfants cul par-dessus tête dans les photos de Doisneau, son côté un peu comme ça, Zazou. Et là, c'est un enfant qui est... Le titre, c'est un enfant réfugié. On voit, quand il fait notamment... Il photographie énormément le travail, pas simplement les lieux du travail, mais le travail. Ça peut être... l'endroit où on va déjeuner à midi, la cantine vide et ensuite la cantine pleine, les deux photos. On voit les usines d'automobiles, mais on voit la mine. Et à la mine, on voit que les gens qui sont à la mine, ils ont 14 ans, ils ont 13 ans, ils ont 14 ans. C'est des gosses. Ça, quand même, de ça, on est vraiment saisi. Et à côté de ça, il y a... C'est un truc que l'Expo a un peu raté, je trouve. D'une part, cette histoire d'actuel dont je parlais, c'est pas du tout là, ça n'a pas été sélectionné. Mais le nom de Robert Giraud est mentionné une seule fois sur les CIMES, mais il n'est pas tellement travaillé par l'exposition, qui travaille plus ses liens avec Prévert, qui est évidemment quelqu'un de beaucoup plus connu. Robert Giraud, on ne sait plus du tout qui c'est. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui pourrait vraiment nous amener justement à réapprécier Doisneau. C'était un fou total, c'est un type qui a été chiffonnier, qui a fait des vins, qui a fait surtout un livre sur les vins de Paris parce qu'il en consommait beaucoup, qui a vendu des livres sur les quais, qui a fait un film incroyable avec Doisneau sur les tatoués au tout début des années 50. C'est un type qui a arpenté, son œuvre littéraire est éditée par le Dilettante, un nom qui va bien à Doisneau aussi, et c'est quelqu'un qui a arpenté Paris qu'aujourd'hui il faudrait redécouvrir vraiment, et là on voit le compagnonnage avec Giraud, et c'est Giraud qui l'a amené vraiment dans des bars où il était même pas capable, enfin personne ne pouvait photographier là. C'est ça qu'on oublie, c'est qu'on a l'impression que l'humanisme de Doisneau, c'est des enfants jouent, j'ai photographié, tout va bien. Enfin, il va quand même là où on peut pas, là où c'est interdit.
Robert Doisneau, instant donné jusqu'au 12 octobre au musée Mayol. Et le catalogue est sorti aux éditions Tempora. Il est au prix de 45 euros.